C'est un peu gelé ce matin, il n'y a pas beaucoup d'exhortations. Alors les grands vont sortir avec Thiago, je crois, pour la prédication, on va attendre la prédication. Voilà, alors que je pense parler donc ce matin de une notion qui est retrouvée quelquefois dans l'Ancien Testament sous forme d'image, que je pense développer avec vous, si vous êtes d'accord. Il s'agit de l'image de la ceinture. Alors vous savez que dans Éphésiens chapitre 6, dans les armes de l'esprit, n'est-ce pas, il est question de la ceinture. Ça n'a pas été oublié par l'apôtre Paul. Et vous savez ce à quoi fait référence la ceinture dans Éphésiens 6? C'est la ceinture de la vérité, effectivement. La ceinture de la vérité. Donc c'est pour ça que le titre que je propose de donner ce matin à cette prédication, c'est la vérité pour ceinture. Et j'aimerais parler de la ceinture. Et pour ça, je vais me prendre des versets dans Jérémie chapitre 13, où il est question d'une ceinture de lin. Alors, ça paraît étrange au début de parler, faire un message sur la ceinture, n'est-ce pas? C'est pas que je vais après proposer des ceintures à vendre, ou qu'on m'a dit de faire la promotion des ceintures. C'est juste que c'est une notion qui est très importante dans la Bible, dans la culture de l'Ancien Testament, dans celle du Nouveau Testament aussi. Et c'est donc quelque chose qui a été utilisé comme illustration et comme symbole. Quand est-ce qu'un homme était saint? Eh bien, il se saignait pour être vaillant, pour être prêt. Par exemple, Dieu, quand il a parlé à Job, après que Job ait tenu ses discours, ses plaintes, etc., après que ses amis lui aient conseillé tout un tas de choses, eh bien, Dieu a dit à Job, tiens-toi saint, debout, vaillant comme un vaillant homme. C'est une façon de se tenir et de montrer qu'on était prêt, qu'on était préparé au combat, préparé à partir, préparé à affronter ce qui devait être affronté. Et je voudrais ce matin nous poser la question sur le fait, est-ce que nous sommes saints? Saints avec une ceinture, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt? Mais j'aimerais aller plus loin et de même demander de quel type de ceinture sommes-nous? Parce qu'il n'est pas seulement question d'être saint, il est question aussi que le peuple de Dieu est une ceinture. Alors là, ça devient étrange. Mais c'est ce dont il est question dans Jérémie chapitre 13. Si par exemple on regarde au verset, on reviendra sur le chapitre 13 tout à l'heure, mais là je vais prendre juste un verset qui va m'aider pour l'instant, au verset 11, Jérémie 13, 11, car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël. Donc ça veut dire que Dieu s'était attaché, avait pour ceinture son peuple. Et je vois là une illustration extrêmement simple, mais la Bible au fond est remplie d'illustrations tellement simples. C'est nous qui cherchons des complications, n'est-ce pas? Mais je vois là une illustration tellement simple du fait que Dieu est attaché à son peuple et que son peuple devait être attaché à lui. Et quoi de plus simple pour représenter l'attachement d'un peuple vis-à-vis de son Dieu que de dire que c'était la ceinture de son Dieu? C'est-à-dire que Dieu avait son peuple pour ceinture. Et le but de Dieu, c'était d'avoir le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, représenté dans l'Ancien Testament par le peuple d'Israël, autour de lui, qui faisait qu'il était vaillant, n'est-ce pas? Il était prêt, Dieu était prêt parce qu'il avait cette ceinture de son peuple qui lui était fidèle. On verra tout à l'heure que dans le chapitre 13, il est question d'un peuple qui n'a pas été fidèle et qui, par conséquent, n'a pas pu être attaché au rein de Dieu, qui n'était plus attaché, qui s'était détaché de cela. Mais j'aimerais savoir ce matin si nous sommes attachés à Dieu ou à quelle personne sommes-nous attachés? Parce que on peut être attaché à tout un tas de choses, à des enseignements. On peut être attaché, comme je dis souvent, à une éducation. Combien de gens sont attachés à leur père? Pas attachés sentimentalement, pas attachés affectivement, mais attachés parce que le père a inculqué la loi d'une manière très très forte à la maison. Le père a inculqué une forme d'autorité très sévère ou très particulière et il a attaché ses enfants en quelque sorte à lui. Et ça reste toute la vie, n'est-ce pas? Les gens grandissent, se marient, évoluent, mais toujours il y a cette image du père ou de la mère, évidemment. Mais c'est malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est le père qui a fait défaut, qui est là pour orienter les pensées, pour orienter les convictions, pour orienter les croyances. Combien de gens ont eu une éducation sévère? Et ils ont eu une inculcation de la loi qui est très forte et ils fonctionnent toujours par ce système de bien et de mal. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que ce que je fais, c'est mal? Que dois-je faire? Je dois choisir le bien, ça je le sais. Mais vous savez que quand on représente la ceinture de Dieu, il n'est plus question du bien et du mal. Parce que l'arbre du bien et du mal que peuvent donner les parents, eh bien, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre auquel il ne fallait pas toucher au départ. Mais on est obligé de fonctionner comme ça. On est obligé de dire à nos enfants, c'est bien, c'est mal. Mais au fond, il y a quelque chose d'autre, n'est-ce pas, qui est l'arbre de la vie. Et lorsqu'on est vraiment attaché à Dieu, comme une ceinture attachée au rein d'un homme, eh bien, on est attaché à la vie. Et c'est ça que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas que le peuple s'attache aux lois. Il voulait qu'il s'attache à lui pour que les lois soient gravées dans leur cœur. Et c'est ça le cœur de l'Évangile, c'est ça le cœur de Dieu. Mais ici, on lit plus après le verset 11. On lit que Dieu dit qu'il voulait que son peuple soit attaché à lui afin qu'il fût son peuple, son nom, sa louange et sa gloire, mais ils ne m'ont point écouté. En fait, je pense que la traduction exacte, c'est afin qu'ils fussent de mon peuple, de mon nom, de ma louange et de ma gloire. Et c'est la caractéristique de ceux qui sont attachés à Dieu, qui sont de la ceinture de Dieu, c'est qu'ils sont le peuple de Dieu. Est-ce que vous avez cette certitude aujourd'hui? Oui, je fais partie de ce peuple de Dieu. Je ne suis pas étranger à ceux qui se réclament du nom de chrétien, parce que je sais que Dieu m'a choisi et m'a appelé, et je fais partie de son troupeau. Oui, je sais que ceux qui ont vraiment la certitude d'être enfant de Dieu, eh bien moi je peux l'avoir aussi et je l'ai dans mon cœur. Combien j'ai souffert en tant qu'adolescent de voir des gens qui pouvaient dire « Je sais que Dieu, que Jésus m'a sauvé, je sais qu'il m'a donné la vie éternelle » et moi je ne pouvais pas le dire. Je savais que je n'étais pas la ceinture de Dieu, que je n'étais pas attaché à Dieu. J'étais attaché à Dieu à certains moments de ma vie parce que j'avais peur. Mais dès que le matin se levait et dès que j'étais à l'école, j'oubliais Dieu et c'était plus question de Dieu. Il a fallu que l'Esprit de Dieu me travaille jusqu'à ce que je comprenne et que j'accepte. Mais vous savez que Dieu ne laisse pas longtemps ceux qui le cherchent dans le désert. Il se révèle et il montre la solution. Mais ici, le fait que Dieu voulait que son peuple d'Israël soit vraiment son peuple, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un message pour nous ce matin. Est-ce qu'on peut dire oui, je suis le peuple de Dieu, c'est-à-dire conduit par Dieu lui-même? C'est Dieu qui est mon roi, c'est Dieu qui est mon Seigneur, c'est Dieu qui dirige ma vie. Oui, je suis de son peuple. Je suis son peuple. C'est quelque chose de merveilleux quand on peut le dire. Et si on ne peut pas le dire ce matin alors qu'on le cherche aujourd'hui, parce que Dieu est un Dieu qui se révèle, parce que Dieu est un Dieu qui montre avec tendresse, il n'est pas dur, il n'est pas quelqu'un qui va vous menacer, il est quelqu'un qui va vous dire n'aie pas peur. Il va venir vous montrer ce qu'il faut faire. Comment vous pouvez venir au Seigneur aujourd'hui même? Comment vous pouvez avoir dans votre cœur la certitude de la paix avec Dieu? Le problème, c'est qu'on le remet à demain. Et demain, on le remettra à demain. Et ce sera comme ça pendant des années parfois. Alors que c'est aujourd'hui que le Seigneur nous appelle. Mais pour être de la ceinture de Dieu, il faut être dégagé des autres auxquels vous êtes attachés. Je ne parle pas d'une rupture, parce qu'il y a des gens qui comprennent mal, qui disent « Ah oui, je dois casser, je dois rompre une relation, je dois clasher avec ma famille parce que je dois servir. » Ce n'est pas ça du tout dont il est question. Mais les attachements que vous avez dans votre cœur ou les liens que vous avez parce qu'on a forcé cette ceinture autour des reins de quelqu'un qui vous conduit où vous ne voulez pas. Et ça s'agit de liens spirituels. Vous sentez que vous n'êtes pas attaché à Dieu parce que vous êtes attaché à une autre puissance, à une autre autorité. Et peut-être que la ceinture que vous êtes, eh bien, elle est fermement tenue, fermée. Et vous avez ce matin le sentiment que ce n'est pas possible. Le message de l'Évangile est clairement décrit par Jésus-Christ. Lorsqu'il reprend ses paroles d'Ésaïe 61, lorsqu'il dit « Je suis venu pour rendre libres les captifs ». Le message de l'Évangile est le message de la libération. Si l'Évangile n'est pas le message de la libération, si l'Évangile n'est pas prêché comme étant plutôt le message de la libération, comme étant le message de la liberté, eh bien, on n'a pas connu le cœur de l'Évangile. Parce que Jésus a dit « Je suis venu pour rendre les captifs libres ». Il a dit « Je suis venu pour apporter la liberté, aux aveugles le recouvrement de la vue ». N'est-ce pas pour annoncer une année de grâce de la part de l'Éternel. Et le Seigneur veut libérer ceux qui sont attachés, peut-être à un enseignement. Ils sont attachés à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont été attachés là quand ils étaient enfants autour de cet arbre. On leur a dit « Ne quitte pas cet arbre, parce que quand tu vas quitter cet arbre, tu vas périr ». Et c'est quelquefois dans les milieux chrétiens que l'on a attaché des gens, des enfants et des hommes et des femmes à cet arbre. Et ils voient l'arbre de la vie pas loin d'eux et ils disent « Je ne peux pas y aller parce que je suis attaché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Eh bien, Jésus libère ce matin. Il libère de la loi. Et ça ne veut pas dire qu'on est libre de faire contre la loi. C'est que quand Jésus vous libère de la loi, vous êtes tellement touché par la grâce de Dieu dans votre vie que vous ne voulez surtout pas enfreindre la loi de Dieu, de peur d'être à nouveau attaché à un autre arbre ou d'être attaché au péché. Mais l'Évangile, c'est cela, c'est la libération. Ça veut dire que il n'y a plus cette condamnation qui pèse sur vous. Si vous venez à Jésus et vous dites « Voilà, je veux être libéré ce matin. Je veux que tout ce qui me attache à autre chose, qui m'attache à mon passé, qui m'attache à mon histoire, qui m'attache à ce que j'ai toujours cru, eh bien que je sois libre de ça, que tout ce qui me semble important dans la vie, même dans mon enseignement, eh bien je renonce à tout ça. Je veux être libéré ce matin. Je veux que cette ceinture soit enlevée de là où elle est maintenant et qu'elle soit mise autour de Dieu pour que je puisse être de son peuple. Est-ce que vous voulez être de son peuple? Son peuple, c'est un peuple libre. C'est un peuple qui est revêtu de lin. Vous lisez ça dans Apocalypse chapitre 19. Ceux qui suivaient la parole de Dieu étaient couverts de lin. De lin pur, blanc. Et c'est frappant le lin parce que ça fait partie de mes fleurs ou plantes préférées. Parce que quand vous regardez le jour un champ de lin, vous ne voyez rien de beau. Vous voyez rien d'extraordinaire. Mais quand vous regardez le soir et le matin tôt, vous voyez une lueur bleue magnifique sur le champ. Ce sont des fleurs discrètes. Ce sont des fleurs qui ne se montrent pas. Si vous prenez une tige de lin seule, ça ne paye pas de mine. Et c'est ça qu'il faut être, n'est-ce pas? Mais il y a une beauté discrète qui se manifeste dans la communion avec les autres plantes de lin, avec les autres tiges de lin. Et c'est ça qui fait une harmonie très discrète et qui touche le cœur. Eh bien, Dieu veut vous ceindre d'une ceinture de lin. Il veut vous revêtir de lin. Et vous savez ce que c'est le lin dans l'Apocalypse? C'est là. Vous savez ce que c'est le fin lin, ce que ça représente? Eh bien, ça représente la sainteté. Ça représente la pureté. Ça représente ce que Dieu veut que nous ayons sur nous et en nous. Et c'est ça qui fait que Dieu, bien sûr, a cette ceinture autour de lui, et cette ceinture est de lin. Si elle est symbolisée par une matière, elle serait de lin. Et ce lin pur, eh bien, c'est nous qui devons être purifiés d'abord, qui devons être lavés, qui devons être mis à part pour lui. Il est dit là que c'est son peuple. Il voulait mettre cette ceinture. Le désir de Dieu, c'est d'avoir cette ceinture autour de lui afin que ses enfants soient son peuple, que ses enfants soient son nom ou de son nom. De quel nom êtes-vous? De quel nom êtes-vous sur la terre? Est-ce que vous êtes du nom de Dieu, du nom de Jésus? Est-ce que votre vie représente, n'est-ce pas, ce Dieu vivant, ce Jésus-Christ de l'Évangile? Est-ce que les gens qui vous voient et qui apprennent après coup que vous êtes chrétien disent « mais c'est normal » ou bien ils disent « tiens, j'aurais jamais cru » ou est-ce qu'ils savaient parce qu'il y avait votre nom qui était, parce qu'il y avait le nom de Dieu qui était écrit sur votre front, bien sûr pas littéralement. Mais il y a quelque chose dans votre vie qui est tellement marqué par le nom de Jésus. Oui, c'est ça qui fait que vous pouvez être la ceinture de Dieu. Vous pouvez être attaché à Dieu ce matin si vous demandez au Seigneur d'être le nom de Dieu sur la terre. Mais vous savez ce que Paul dit aux Juifs dans Romains chapitre 2? Il leur dit « Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé. » Il est très dur et très direct. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Vous entendez, vous allumez la télévision, vous relisez les magazines, les livres, et vous voyez le nom de Dieu blasphémé sans arrêt. Et on va dire « Mais où va notre monde? Dieu est rejeté. » Mais c'est à cause de ceux qui se sont déclarés chrétiens que le nom de Dieu est blasphémé en France. Les coupables, c'est ceux qui ont dit « je suis chrétien » et qui ne l'étaient pas. Parce que la ceinture dont il est question dans Éphésiens chapitre 6 est la ceinture que Dieu veut seulement, eh bien c'est la ceinture de la vérité. Et le problème, c'est que beaucoup se sont dit chrétiens, donc du nom de Christ, du nom de Dieu, et ne l'étaient pas réellement. Et voilà que le monde a observé ça et le monde a dit « voilà, c'est ça les chrétiens ». Ils ont blasphémé le nom de Dieu. Dieu a dit que ton nom, dans la prière que Jésus nous a enseignée, que ton nom soit sanctifié. Et si vous êtes le nom de Dieu, ça veut dire que vous soyez sanctifié. Vous ne pouvez pas dire à notre Père en disant que ton nom soit sanctifié, en disant, de toute façon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Oui, le nom de Dieu est saint. C'est vous le nom de Dieu sur la terre. Et c'est vous qui devez être sanctifié. C'est moi qui devais être sanctifié. Vous savez qu'il y a un verset dans Hébreux chapitre 12 qui est terrible, que beaucoup d'entre nous avons rejeté de notre conscience parce que c'est trop troublant. Sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu ce matin, à moins de connaître la sanctification dans nos vies. Et c'est sérieux. Et c'est important de prendre ça à cœur. Il voulait donc cette ceinture pour que son peuple soit son nom, sa louange et sa gloire. La louange de Dieu, c'est son peuple. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsqu'on loue l'Éternel, eh bien, la louange qui monte, ça n'est pas les paroles, c'est pas les chants. Vous savez, il y a certaines mélodies, certaines façons de jouer, certaines façons de chanter qui produisent un effet spécial dans notre corps et qui nous donnent envie, n'est-ce pas, de lever les mains, de louer le Seigneur. C'est pas du tout une mauvaise chose. Mais je pense que dans beaucoup de cas, c'est émotionnel. Et il ne faut pas rejeter les émotions. Les émotions sont nobles quand elles sont contrôlées par Dieu. Mais je ne crois pas que c'est ça la louange. Je crois que la louange de Dieu dans une église, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui ont l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'un homme et une femme qui est rempli du Saint-Esprit, qui dort chez lui, il y a la louange de Dieu. Parce que vous regardez la personne et vous voyez, vous savez que cette personne a une profonde communion avec Dieu, même pendant son sommeil. C'est ça la louange de Dieu. Est-ce qu'on loue le Seigneur? Est-ce qu'on glorifie le Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire louer le Seigneur? C'est-à-dire vivre la vie de l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est la louange. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut une ceinture avec des hommes et des femmes qui sont saints, qui louent le Seigneur par leur vie, n'est-ce pas? Qui ont une vie qui communique quelque chose de la part du Seigneur. Voilà ce que c'est la ceinture de Dieu. Voilà ce qu'est la ceinture de Dieu, la ceinture de la vérité. Mais si vous lisez le chapitre 13 de Jérémie, vous allez voir que l'histoire n'est pas si belle. Que Dieu a dit à Jérémie, « Va t'acheter une ceinture de lin et tu la mets autour de ta taille. » Vous remarquerez que Jérémie n'a pas dit, « Mais enfin Seigneur, c'est quoi que tu me demandes là ? » J'aurais l'air bizarre. Quelle est cette idée ? Non. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Dieu lui a dit, ne la mets pas dans l'eau. Tu la mets directement sous terrain. Et il s'est promené comme ça, en tant que prophète, il était connu. Et on a dit, tiens, les gens ont dû dire, tiens, il s'est acheté une ceinture de lin. C'est rare que Jérémie s'achète un nouveau vêtement. Et il s'est acheté une ceinture de lin. Et ensuite, Dieu lui dit, maintenant tu enlèves ta ceinture et tu vas l'enterrer. Tu vas la mettre dans la fente d'un rocher près du fleuve de l'Euphrate et tu la laisses là. Il est allé, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Quelques jours après, Dieu lui dit, va rechercher cette ceinture. Et cette ceinture, il est allé la rechercher à l'endroit où il l'avait mise et elle était gâtée, elle était pourrie, elle était abîmée, imprégnée de l'eau de l'Euphrate. Et Dieu a dit, voilà, voilà mon peuple, voilà la ceinture que je voulais mettre, une ceinture de fin lin pur, qui représente la sainteté. Voilà ce que j'avais comme intention de mettre autour de mes reins, et voilà ce qu'est devenu mon peuple. Et peut-être ce matin, c'est le cas ici, que certains d'entre vous, vous avez l'impression d'avoir été la ceinture de Dieu à une époque de votre vie, que vous étiez du fin lin pur, et que vous avez été dans la captivité près de l'Euphrate. L'Euphrate coule en Babylone, et que là, l'eau de l'Euphrate, l'eau de la captivité, eh bien, est venue imprégner votre vie un peu à la fois, jusqu'à ce qu'elle soit gâtée. Peut-être vous avez ce sentiment-là, qu'elle n'est plus bonne à rien, comme dit Dieu, cette ceinture n'est plus bonne à rien. Peut-être vous êtes comme les captifs sur les bords, dans le psaume 137, sur les bords du fleuve de Babylone. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Si c'est le cas ce matin, eh bien, le message de l'Évangile, qui est déjà là dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu transforme, c'est que Dieu renouvelle. Vous savez, quand Josué, le sacrificateur, était devant Dieu, eh bien, Satan l'accusait dans Zacharie. Vous lisez ça au début du livre de Zacharie. Satan l'accusait en disant, il a des vêtements sales. Et ce matin, peut-être on entend cette accusation, il a des vêtements sales, elle a des vêtements sales. Mais la parole de Dieu, c'est celle qui compte. C'est celle qui vient après. Ôtez-lui les vêtements et revêtez-le de vêtements blancs. Le Seigneur transforme. Voilà le deuxième message de l'Évangile. Aujourd'hui, quel que soit l'état, combien de gens se sentent pourris, se sentent gâtés, se sentent abîmés, sentent que c'est plus possible. C'est pas possible de revenir en arrière. Eh bien, l'Évangile, c'est précisément pour vous. L'Évangile n'est pas pour les justes, pour ceux qui disent « Moi, je suis très bien avec ma ceinture. Je suis une très bonne ceinture. Dieu vraiment doit être très content de moi. » Non, Dieu est venu pour, Jésus est venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui savent qu'ils ont besoin de Jésus-Christ ce matin. Mais c'est à vous de venir à Jésus-Christ et de dire « Voilà, je suis là. Je sais que je suis perdu. Je sais que les eaux de Babylone ont contaminé ma vie. Je sais que je me suis laissé envahir et qu'il y a eu la pourriture qui est venue. Et je ne suis plus bon à rien maintenant, spirituellement parlant. Et je veux juste le Saint-Esprit qui régénère. » Si c'est votre attitude ce matin, je peux vous garantir que le Saint-Esprit va agir dans votre vie. Parce que c'est ça que Dieu veut, que son peuple revienne et dise « Voilà, je veux être ta ceinture. Je veux être attaché à toi, mais comment pourrais-tu, toi qui es saint, comment pourrais-tu mettre une ceinture gâtée, une ceinture abîmée, une ceinture pourrie? Comment pourrais-tu m'accepter? Et si vous savez que vous n'êtes pas acceptable devant Dieu, eh bien, il y a le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie et qui nous rend dignes, qui nous revêt de vêtements nouveaux, de vêtements de fin lin, purs et saints. Ce matin, c'est ça le message de l'Évangile. C'est ça le message de Dieu pour son peuple. C'est ça le message que Dieu m'a donné fortement pour ce matin, il y a quelques jours. Et le Seigneur veut agir ce matin dans nos vies, n'est-ce pas? Il veut agir dans ma vie en premier, évidemment. Peut-être vous êtes dans un autre cas de figure. Peut-être ce n'est pas les eaux de Babylone. Peut-être c'est pas que vous avez été imprégné par le monde, par la captivité, mais c'est autre chose qui a souillé vos vêtements. Et j'aimerais juste, ne tournez pas, j'aimerais juste prendre une parole de David lorsqu'il s'adressait à son fils Salomon, lorsque Salomon était allé devenir roi. Il lui a dit, il a dit à son fils: « Souviens-toi de Joab, Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait aux reins et sur la chaussure qu'il avait aux pieds. Peut-être c'est le sang de la guerre qui a souillé votre ceinture. Peut-être vous êtes souillé par le sang de la guerre. Oh, ici, il n'y a probablement personne qui a fait la guerre. Donc, il ne s'agit pas, bien sûr, de la guerre contre une nation. Mais peut-être c'est les conflits. Peut-être c'est les disputes. Peut-être c'est les critiques qui ont taché la ceinture que vous étiez, qui était belle, qui était sainte. Et il y a le sang sur cette ceinture qui fait qu'elle est souillée, qu'elle n'est plus bonne. Et Joab, c'était un homme qui était une forte personnalité. David, vous savez que Joab était le chef de l'armée de David. David était un roi nommé par Dieu, selon le cœur de Dieu. Et David était faible. Dieu est allé chercher dans la famille d'Isaïe, ou de Yessé, selon les traductions. Il est allé chercher le plus petit, le plus jeune. Son père avait même oublié de le nommer parmi les fils. Ah oui, j'en ai un autre, c'est vrai. J'ai oublié, j'en ai un autre, il est avec les moutons, lui, ça compte pas. C'est celui-là que Dieu a choisi pour diriger une église. Il faut des hommes qui sont faibles, faibles et faibles, pas des compétents. Parce que la compétence va mettre du sang sous la ceinture. Il faut des gens qui disent, comme David a dit, ses fils de Tseruya, parlant de Joab et de ses deux frères, sont trop puissants pour moi. Joab était compétent. Joab était, avec ses deux frères, des hommes sûrs, des hommes d'une énorme connaissance. Ils savaient comment diriger une armée. Ils ont conseillé David, ils ont agi pour David de manière remarquable. Ils ont fait des exploits, ils ont sauvé la vie de David à plusieurs reprises. Mais le problème de Joab, qui annulait tout, c'est qu'il savait ce qu'il fallait faire. Et il a dit à quelquefois, David lui a demandé des choses et il a fait contre la vie de David. Parce qu'il savait qu'il avait rien. En fait, si vous analysez, vous voyez que probablement Joab avait plus raison que David. Mais il a désobéi à David. Parce qu'il savait comment il fallait faire. Et ça a été la ruine de Joab. Ça a été la ruine de ses deux frères. Et peut-être que quelquefois on a des idées très fortes, quelquefois on a aussi une personnalité très forte. Peut-être que ça veut dire que dans la famille il y a des conflits à cause de notre personnalité, à cause de notre façon d'être. Peut-être que c'est au travail qu'il y a des conflits. Peut-être que c'est dans l'église qu'il y a des conflits. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire, parce qu'on sait comment il faut penser, parce qu'on sait comment il faut agir. Mais ça met du sang sur la ceinture, ça gâche la pureté, la sainteté que Dieu voulait qu'on ait. Et il est dit que le sang de la guerre était sous sa ceinture et sous ses chaussures. Et vous savez que sur les chaussures dans Éphésiens chapitre 6, c'est quoi? Les chaussures qu'il faut revêtir, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Combien le christianisme, avec un tout petit c, dans l'histoire, a revêtu des chaussures de sang au nom de l'évangile de paix. C'est certainement pas comme ça que la parole de Dieu peut se répandre. Il ne doit pas y avoir de sang, il ne doit pas y avoir de l'esprit de la guerre, il ne doit y avoir que la paix dans les cœurs. Et voilà que peut-être ce matin aussi, on sent qu'on est dans le conflit. Combien de gens sont impliqués dans des conflits? Je me rappelle, moi-même, au niveau professionnel, il y a des années, avoir été plongé dans des conflits où on m'a mis en position de responsabilité de quelque chose et il y avait l'opposition. C'est comme en politique, il y avait l'opposition. Et j'étais tout jeune à l'époque et je ne pouvais pas faire face, je n'avais pas l'habitude de ce que c'était l'opposition. Et ça rongeait mon corps, ça détruit ma santé parce que je n'avais pas l'habitude, n'est-ce pas? Et le problème, c'est que en avançant, on risque toujours à se forger, à se former à la guerre, à devenir plus solide, etc. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on abandonne les conflits, qu'on soit des ouvriers de paix, qu'on soit des gens, des hommes et des femmes qui acceptent d'avoir tort, qui acceptent d'abandonner les procès, d'abandonner les conflits et de dire « voilà, je renonce parce que je veux représenter Jésus ». Jésus-Christ a été accusé à tort. On a dit des choses atroces sur Jésus. Il avait le pouvoir de faire intervenir l'armée céleste pour le délivrer, mais il ne l'a pas voulu. Est-ce que vous êtes prêt à être foulé aux pieds? C'est ce que nous avons recommandé, Daniel et moi, une personne qui n'est pas du tout ici. Il y a longtemps, on a dit, est-ce que tu es prêt dans ta famille à être la carpette? Juste accepter d'être foulé aux pieds. Et c'est ça qui fait que si on accepte cet état d'esprit comme Jésus l'enseigne sur le serment sur la montagne, qu'on est libéré. Étrangement, on est libéré. On est libéré de tout l'effort que ça consiste à chercher à avoir raison. On est libéré de tout l'effort que ça demande que de se justifier, de réclamer ses droits. Et on a ce temps merveilleux pour dire, Seigneur, voilà, je suis comme toi. Est-ce que vous voulez être comme Jésus ce matin? Est-ce que l'on veut cela? Eh bien, c'est en demandant cela au Seigneur, oui Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Je me donne à toi pour la première fois. Ou je me donne à toi encore. Est-ce que vous voulez vous donner à Jésus? Est-ce que je veux me donner à Jésus? Est-ce que ce matin, le problème qui est dans notre vie, le problème qui est dans ma vie, je veux dire, voilà, c'est réglé. Ça va être réglé aujourd'hui. Ça va pas, le soleil ne va pas se coucher sur ce problème. Ce sera terminé. Parce que l'Évangile est vraiment là pour me libérer. Vraiment là pour me changer, pour me remplir de l'Esprit. Et je veux être la ceinture de Dieu, je ne veux être attaché qu'à lui. Je ne veux faire que sa volonté. Joab et ses frères étaient appelés les fils de Tseruya. Tseruya, c'était leur mère. C'est étrange, n'est-ce pas? C'est les rares qui étaient appelés fils de leur mère, dont on ne connaît pas le père. Et je pense que ça a forgé beaucoup la personnalité. La mère devait être très fière, très en sécurité. Trois gaillards, des guerriers forts, sportifs. Mais ils faisaient selon leur volonté. Et ils ne pouvaient pas être reconnus par Dieu comme ayant le cœur de Dieu, comme David l'avait. Est-ce que ce matin, on veut venir au Seigneur et dire, Seigneur, renouvelle-moi, change-moi. Je suis pourri, je suis souillé, je suis imprégné de l'eau de Babylone. Ou bien je suis taché de sang. Il y a sur moi le conflit. Je suis sans cesse en train de me disputer. Je suis sans cesse en conflit. Et je veux que ça change. Eh bien, l'Évangile est là. Jésus-Christ est là. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'aujourd'hui, ce matin, eh bien, les choses peuvent changer. Laissez Dieu dans votre vie faire son œuvre. Laissez le Saint-Esprit. Ne lui dites pas ce qu'il doit faire. Laissez-le agir dans votre vie et continuez, persévérez. Ne laissez jamais rien vous détacher de la personne de Christ, de la personne de Dieu, que vous soyez toujours sa ceinture jusqu'à la fin. Amen.